Voilà, premier sujet donc dans ce magazine, on va parler des échanges économiques entre le Japon et les Hauts-de-France. Alors, je ne savais pas que ça existait, mais cette année, je l'ai vu, je me suis rendu donc à cette rencontre du Club Japon des Hauts-de-France, l'initiative du Conseil régional de la région. Donc, pour cette troisième rencontre qui a eu lieu le 4 novembre, c'est l'Opéra de Lille qui a accueilli plus de 200 personnes en relation d'affaires. Alors, vous allez me dire en quoi les relations d'affaires nous intéressent. Ben, si, je pense quand même que c'est intéressant de voir ce que viennent faire des Japonais d'affaires en France, ce qu'ils cherchent et voilà, ce qu'ils trouvent peut-être ou ce qu'ils ne trouvent pas et pourquoi. Donc voilà, donc cette rencontre, on aura l'occasion d'entendre l'ambassadeur du Japon tout à l'heure. Je vous propose d'abord de démarrer en musique avec deux œuvres qui ont été interprétées à l'issue de cette conférence débat présentation par quatre artistes de l'Orchestre National de Lille. C'est une chanson musique célèbre de Toyohisa Araki qui s'appelle Chanson de quatre saisons, donc interprétée par quatre des musiciens de l'Orchestre National de Lille. Voilà donc une très belle pièce interprétée par des musiciens de l'Orchestre national de Lille pour démarrer cette séance de présentation des échanges économiques entre la France et le Japon. On va poursuivre donc dans quelques instants avec une interview que j'ai réalisée de l'ambassadeur du Japon en France. Elle s'appelle Makita Shomokawa. Bonjour monsieur l'ambassadeur.
Oui, bonjour.
Donc voilà, le Japon est ici représenté par vous en Hauts-de-France. C'est un bel événement.
Oui, tout à fait. C'est la troisième que j'assiste. Et je pense que l'initiative prise par le président Xavier Bertrand et son équipe est magnifique. Je pense que la région Hauts-de-France est une des régions les plus actives en ce qui concerne le développement commercial et la coopération industrielle avec le Japon.
Donc cette année, il y a eu un gros événement au Japon avec
oui.
Osaka, bien sûr.
Oui.
La région Hauts-de-France était présente.
Oui.
Est-ce que vous avez ressenti quelque chose qui bougeait ?
Oui, oui. Mis à part le pavillon de France, donc la représentation nationale, la région de la ville de Lille avait un pavillon exposition un peu séparé. C'était le Future Textile Lille 3000 qui a été présent au parc de Nagai. C'est un peu à côté de l'exposition. Et c'était une exposition magnifique sur le textile du futur, écologique, etc. Et je suis allé voir moi-même en juin parce que j'étais ici en septembre l'an 2024 pour voir l'exposition de textiles L'île 3000 ici à Lille. Et j'étais tellement impressionné. Et j'ai vu que une grande partie de l'exposition était transplantée à Osaka. Et il y avait beaucoup de monde.
Voilà. Donc j'imagine que les projets d'avenir de la région oui. sont en phase avec mm-hmm. vos propres projets
oui,
d'avenir.
Oui, je pense que nous avons dans la région et le Japon une tradition d'industrie de textile, mais non seulement donc l'industrie classique, mais comme le IA, le cybersécurité, tout et tant d'autres technologies de pointe qui sont aussi un enjeu majeur pour la France, la région et le Japon.
Avec bien sûr de grandes entreprises qui sont en Haute-France.
Oui, oui c'est ça, exactement. À commencer avec Toyota et des autres compagnies qui sont dans l'industrie de l'automobile. Mais non seulement ça, donc le data center, le logiciel, le transport, il y en a beaucoup. Donc, oui.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Voilà, donc effectivement, l'ambassadeur du Japon en France parlait d'une exposition qui s'appelle Futuro Textile et qui a été présentée cette année. Alors cette année a eu lieu l'exposition universelle hein, d'Osaka. C'est pour ça que la région présentée dans le secteur géographique de cette exposition, donc cet ensemble de travaux réalisés en région qui s'appelle Futuro Textile. Bon, il y a eu plusieurs éditions de Futuro Textile, ça fait au moins 15 ans que j'ai suivi ça depuis le début. Et donc j'ai notamment retrouvé cette exposition lors de l'Expo Universelle à Shanghai en 2010, où là j'avais rencontré là-bas sur place des personnes qui avaient amené cette exposition. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur le reportage que j'avais fait à cette époque à Shanghai. Alors, on va maintenant écouter le vice-président de la région de France. Il s'appelle François De Coster et c'est lui qui est chargé justement des relations internationales.
Nous avons avec la vallée européenne de la batterie électrique de nouvelles entreprises qui nous ont rejoints, notamment des entreprises japonaises, des entreprises coréennes désormais. Et le Japon, c'est une histoire finalement ancienne désormais, puisque 1998, l'arrivée de Toyota, mais c'est une histoire qui continue à créer une vraie dynamique d'attractivité. Il faut l'entretenir et c'est ce que nous faisons au travers du Club Japon. Aujourd'hui, les investissements japonais sont en sixième position, mais ce sont des investissements qui continuent à croître avec de nouvelles arrivées, avec de nouveaux emplois à la clé. Et c'est ce que nous avons pour ambition de pouvoir favoriser avec ce Club Japon, avec les visites régulières aussi qui sont celles de la région, de son président au Japon. On a effectivement toute une équipe avec Nord France Invest, avec la création de Hauts-de-France International qu'on a créé il y a un peu plus d'un an, puisque on travaille ensemble avec la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, avec Nord France Invest, avec le Conseil régional. On s'est d'ailleurs réuni la semaine dernière avec ces trois entités-là pour partager notre programme stratégique pour 2026 sous cette bannière des Hauts-de-France internationales. Et on a aussi, évidemment, avec Clément Chou, évoqué les prochaines missions qui auront lieu l'année prochaine en 2026 à l'international. Et nous serons à nouveau au Japon. Japon pour pouvoir travailler à cette attractivité de la région de France pour les entreprises japonaises. On a beaucoup parlé aujourd'hui sur l'intelligence artificielle parce que c'est aujourd'hui aussi un nouvel atout que nous sommes en train de construire. C'est ce que nous allons continuer à porter l'année prochaine. Cette année, nous avons eu une mission qui était très concentrée sur Osaka avec l'exposition universelle. Et l'année prochaine, quand nous allons retourner, nous allons continuer par les contacts avec le patronat japonais, avec évidemment le Kansai, où il y a un lien très privilégié avec la CCI Hauts-de-France, à pouvoir expliquer aussi ce qui se sera produit pour faire en sorte que notre région soit ce hub européen de l'intelligence artificielle que nous sommes en train de créer.
Alors, parmi les enjeux, il y a bien sûr l'IA, comme vous venez de le dire. La faire accepter par le grand public, ça suppose aussi qu'il y trouve son intérêt. Il n'y a pas que l'intérêt des industriels. Comment vous voyez ça ?
On voit que les usages de l'IA sont en train de se développer et je crois qu'aujourd'hui, il y a à la fois un intérêt pour l'économie, mais on sent bien aussi que individuellement, chacun se prépare aussi à cette révolution qui est en route. On a évoqué dans les ateliers de ce Club Japon les inquiétudes qui ont pu parfois émerger, mais aussi la manière dont la France s'organise pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un cadre juridique qui donne de la lisibilité. Ce cadre juridique, c'est aussi ce qui va donner aussi de la perspective pour les investissements, pour les entreprises, mais c'est aussi une manière de dire, comme nous l'avons fait sur la gestion des données au plan européen, il y a un cadre dans lequel va s'exercer et se développer l'intelligence artificielle, et c'est aussi pour répondre aux questions qui sont légitimement celles de nos concitoyens, bien sûr.
Alors, il y avait cet enjeu, et il y a encore cet enjeu de l'énergie. Comment donner à ces grandes entreprises l'énergie suffisante pour gérer ces data, etc. On a des atouts, bien sûr, dans la région. Comment faire pour que l'électricité produite en région soit moins chère d'une manière générale ? Est-ce que l'Europe ne met pas trop la main sur notre énergie régionale ?
Nous avons en fait une combinaison de deux facteurs qui fait que nous sommes une région particulièrement attractive sur les data centers qui vont alimenter justement cette révolution de l'IA. C'est à la fois l'énergie et c'est le foncier. Et le fait d'avoir aujourd'hui du foncier qui est proche aussi de nos centres de production énergétique, ça c'est aussi quelque chose qui nous distingue au plan européen. Nous sommes une grande région nucléaire, nous nous préparons à la nouvelle génération des réacteurs nucléaires et donc on voit bien que dans notre mix énergétique, nous avons quelque chose qui nous distingue par rapport à d'autres régions européennes et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous sommes très sollicités par beaucoup de projets d'implantation de data centers pour l'IA, que nous avons une capacité d'ailleurs de pouvoir observer quels sont ces projets pour qu'ils répondent à nos objectifs de notre stratégie économique et puis qu'ils nous permettent aussi de faire en sorte que notre ressource en termes d'énergie, notre ressource en termes de foncier soit la mieux utilisée et optimisée en termes de création de valeur ajoutée et d'emploi. C'est ça d'avoir aussi une stratégie économique et de savoir que nous pouvons nous engager pour pouvoir faire en sorte que la révolution de l'IA soit porteuse de valeur ajoutée et d'emploi dans la région Hauts-de-France.
Est-ce que justement, en termes de personnes, de personnel formé, on a la ressource aussi humaine en région ?
La question de la formation, c'est une des grandes compétences de la région. On l'a montré lorsque nous avons commencé à nous engager sur la batterie électrique. Nous avons adapté, ajusté les programmes de formation. Nous avons à la fois une ambition qui est portée au niveau régional avec tout le travail qui est mené par Philippe Beauchamp pour ajuster la formation aux besoins. Nous le faisons dans les territoires. Il y a beaucoup d'engagement des élus régionaux plus proches des territoires pour faire en sorte de préparer aussi les formations adéquates pour l'évolution de notre économie régionale. Et c'est ce que nous allons continuer à faire sur l'économie l'IA, avec des formations qui sont en train d'être créées pour pouvoir faire en sorte que les collaborateurs nécessaires à cette révolution-là soient formés dans notre région. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir une stratégie de développement économique qui a été pensée pour pouvoir accueillir aussi cette innovation. C'est ce que nous avons fait adopter au Conseil régional quand nous avons adopté notre SRDE2I il y a maintenant 3 ans. On a fait un gros travail lors de l'exposition universelle à Osaka sur aussi la destination touristique, avec dans les prochaines semaines un certain nombre de tour opérateurs qui vont venir dans la suite de ce travail que nous avons mené à Osaka pour pouvoir développer la région Hauts-de-France avec sa position géographique stratégique aussi pour pouvoir développer des flux touristiques. Et donc ça fera partie aussi du sujet du Club Japon pour les prochains mois.
Voilà, c'était François de Coster, donc vice-président de la région Hauts-de-France, chargé notamment de l'international. Et pour information, sur Radio Campus, dans cette émission Quoi de Neuf, nous aurons une partie d'émission le 17 décembre consacrée à l'intelligence artificielle et comment les citoyens peuvent s'emparer de ce sujet. C'est évident, hyper important que l'on s'y retrouve au final. Pas que les économies. Voilà, on va écouter une société maintenant qui s'est implantée à Arras, donc le représentant de Fujitsu Technology Solutions. Voilà, donc en région Hauts-de-France, on connaît beaucoup d'entreprises japonaises. Peut-être Toyota serait en haut du palmarès, mais il y a aussi d'autres qui vont peut-être se présenter maintenant.
Oui, bonjour, Samuel Ferrière, je suis directeur commercial de la société Fujitsu. Et effectivement, nous sommes implantés en France depuis de nombreuses années maintenant, et plus particulièrement en Hauts-de-France, à Arras, où nous avons une équipe, un dispositif de 25 personnes, plus particulièrement spécialisées sur l'édition de logiciels à destination de la distribution automobile.
Alors évidemment, le logiciel est un monde en ébullition avec l'intelligence artificielle, etc. Comment les logiciels, on va dire physiques, peuvent, je ne vais pas dire rattraper leur retard, c'est peut-être pas encore le cas, mais s'adapter tout au moins à ces nouveaux outils?
Oui, alors c'est un vaste, vaste sujet. En fait, la réalité, c'est que on a le logiciel que j'évoquais à l'instant, qui s'appelle Synauto, est un logiciel extrêmement spécialisé dans un vertical métier, dans une industrie. Et la dimension intelligence artificielle, c'est une couche additionnelle qu'on essaye d'imbriquer progressivement dans ce logiciel.
Alors, effectivement, l'IA, on en parle beaucoup, on ne sait pas trop encore tous ces domaines d'application. On imagine que ça va être assez monstrueux, que ça va bouleverser les métiers, les professions. Dans vos métiers d'industriels, qu'est-ce qui va vraiment changer?
Alors c'est clair, on réfléchit beaucoup autour de l'intelligence artificielle, ça structure nos offres. Les clients, nos clients qui sont plutôt des grands groupes, et des ETI réfléchissent également. Ça bouscule pas mal de choses parce que l'idée c'est d'aller au-delà de la phase de robotisation, c'est d'automatiser un certain nombre de tâches et même de permettre à l'intelligence artificielle dans sa génération future, donc la partie agentic et AI, donc l'intelligence artificielle agentique, de pouvoir prendre des décisions et que finalement elle s'auto-alimente et prenne des décisions par elle-même. Donc ça peut effectivement, pour les professions et les métiers les moins qui ont le moins de valeur ajoutée aujourd'hui ou les plus répétitif, j'ai envie de dire, effectivement, c'est ceux qui sont probablement le plus en danger par rapport à cette révolution de l'intelligence artificielle.
Comment vous voyez l'avenir du personnel de ces entreprises que vous aidez en logiciel? Est-ce qu'ils vont réussir à s'adapter? Est-ce qu'il faut les former? Comment?
Oui, alors, l'adaptation, c'est un vrai sujet, mais l'adaptation, pour moi, elle passera par le fait de faire monter en compétence ses propres salariés pour pouvoir finalement les dégager d'un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée et les repositionner là où il y a de la valeur, notamment au plus près des clients, au plus près de la donnée, mieux connaître ses clients, son mode de fonctionnement, la manière de, pour les entreprises industrielles, la manière de produire. Donc voilà, et donc ça nécessite non seulement de les former sur la partie intelligence artificielle, mais aussi de faire de la montée en compétences pour pouvoir s'assurer que ces gens-là ne seront pas laissés de côté.
J'imagine que cela va donner peut-être encore plus l'occasion des relations humaines.
Oui, en effet, parce que l'idée est de processer un ensemble de sujets et qui sont effectivement pas les tâches les plus nobles ou en tout cas les plus intéressantes, et de rebondir et d'aller vers là où les personnes pourront faire valoir leurs différences par rapport à l'intelligence artificielle, et notamment dans ce que vous évoquez à travers les relations humaines, et là où l'intelligence humaine est difficilement remplaçable parce que c'est de l'interaction humaine et elle va continuer d'exister.
Est-ce que vous pensez que les citoyens, d'une manière générale, pourront, grâce à l'IA, intégrer leurs besoins, leurs demandes, leur esprit d'avenir à tous ces logiciels, à tous ces outils nouveaux ?
Alors ça, c'est un vaste débat, mais c'est un débat de société. Et ça dépasse le cadre de la simple économie, mais je pense qu'il faut que chacun déjà se prenne un peu par la main et essaye. Il y a la possibilité de le faire avec des outils gratuits qui sont à disposition, de voir ce que ça peut apporter et ce que ça ne fait pas. Il faut connaître les limites, mais aussi les avantages. Et à partir de là, effectivement, je pense que tout le monde doit pouvoir trouver son chemin, mais il faut aussi, probablement c'est aussi un projet de société comme je l'évoquais, et la formation, l'éducation soit adaptée pour permettre à tout le monde de ne pas être laissé au bord de la route à nouveau.
On pourrait bien sûr faire une émission complète sur le « à nouveau ». Mais pour l'instant, on va écouter une spécialiste du droit des entreprises. Elle est franco-japonaise et donc elle a réfléchi aussi à comment ces entreprises venues du Japon doivent s'adapter à nos normes, nos contraintes et à notre droit français. Voilà, donc nous sommes toujours ici dans ce lieu de rencontre entre des Français et des Japonais, notamment des investisseurs, des industriels, des gens du monde économique. Et dans toute cette évolution formidable, mais en même temps qui peut faire peur aussi, de la technologie, on parle d'IA, on parle de données, data center, etc. Évidemment, les lois, les réglementations, c'est quelque chose d'important et d'un pays à l'autre, ça change. Donc je suis avec quelqu'un qui a étudié le droit, qui a un cabinet d'avocat, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bon, donc j'ai travaillé pendant 8 ans au Japon en tant qu'avocat japonais. Et après, j'ai déménagé en France et j'ai passé le barreau français ici il y a 3 ans. Donc maintenant, je travaille à titre principal en tant qu'avocat français pour les entreprises japonaises. Ce n'est pas dur, mais c'est complexe. Donc il faut vraiment anticiper en amont avant l'investissement en France.
Donc j'imagine qu'au Japon, il y a du droit aussi.
Oui, bien sûr.
Il a de droit. C'est un état de droit.
Oui, bien sûr. Et c'est grâce à votre Boissonade qui a introduit le droit français au Japon. Du coup, notre racine est assez proche à l'origine.
Est-ce que c'est plus facile de travailler avec des entreprises ou aux États-Unis carrément par rapport à la France ou à l'Europe ?
Comme c'est évoqué tout à l'heure au niveau de droit social, peut-être aux États-Unis c'est plus facile pour travailler parce que l'esprit c'est vraiment similaire. entre le Japon et les États-Unis.
Et pour les taxes, qu'est-ce qui est mieux, le Japon ?
Pour les taxes, oh là là, ça, je ne suis pas du tout. Je ne connais pas du tout le taxe. Ça, je ne sais pas.
Bon, parce qu'on voit que les États-Unis ont des taxes à taux variable, oui, selon les négociations.
Voilà. Et les problèmes de États-Unis, c'est l'instabilité, le politique. C'est ça, c'est avant tout, ça fait peur pour les investisseurs japonais.
Donc c'est vrai qu'en France, on va dire que depuis une vingtaine d'années, il y a une certaine stabilité. On ne sait pas dans 10 ans, 20 ans si ça va changer, bien sûr. Est-ce que pour vous, vous êtes habitué à la stabilité ou vous imaginez des scénarios différents ?
Moi, j'espère la stabilité. Et en tout cas, plein de doigts. Je pense que la stabilité est très importante. Si la loi change demain, l'avenir. Et le principal but de droit, c'est avoir stabilité pour les gens, pour les entreprises aussi.
En même temps, la démocratie, c'est toujours un risque.
Oui, ça c'est vrai.
Donc vaut peut-être mieux quand même, je ne sais pas, hein, c'est un modèle quand même de démocratie la France. Ça l'a été tout au moins.
Oui, oui. Comme vous voulez, oui, oui, oui.
Donc c'est une réflexion quand même entre les différents grands pays maintenant du monde. Il y a des pays qui sont de nature assez différente sur leur mode de direction, leur façon de gérer leur pays. Oui. Comment on peut tous s'entendre bien? C'est un beau rêve, ça.
Oui, ça, c'est un beau rêve, je pense. C'est comme entre les humains, c'est pas facile. Mais il faut rêver.
Alors, c'est vrai que quand on se marie, un couple se marie, on peut s'entendre bien ou moins bien, hein. Est-ce qu'on imagine des mariages plus faciles en économie avec le Japon, la France, le Japon, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis? Est-ce qu'on peut s'assembler plus facilement?
Au niveau économique, je ne sais pas. En tout cas, au niveau culture, le culinaire, je vois que on s'entend bien, le Japon et la France. Mais justement, l'économie...
C'est plus compliqué.
Ouais, c'est plus compliqué.
Donc, on n'a pas beaucoup parlé ici, mais ce n'est pas forcément le lieu de culture,
oui,
et de relations humaines, j'allais dire fraternelles. J'imagine qu'entre les Japonais et les Français, il y a moyen de s'entendre humainement.
Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est vrai. Et malgré l'aspect économique, je pense que, au final, c'est les humains qui travaillent. Donc, il faut s'entendre... déjà personnellement ou culturellement pour discuter justement le sujet économique.
Alors dans notre région Hauts-de-France, il y a des personnes japonaises notamment qui sont venues avec leur entreprise ici, hein,
oui,
qui se sont peut-être mariées avec des Français ou pas, voilà, forcément d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont été bien accueillies en région Hauts-de-France?
En région Hauts-de-France, moi je n'habite pas ici, je viens de Paris. Donc je ne sais pas cette région, mais en tout cas moi je me suis mariée avec un Français et en tout cas sa famille ou leur région m'a bien accueillie. Oui.
Voilà, donc ici on dit que les Hauts-de-France c'est une région où les gens sont accueillants. Mm-hmm. Donc je ne sais pas si vous aurez le temps de visiter.
C'est bien de visiter, oui, 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 oui.
N'hésitez pas à faire le tour de la région et d'aller discuter avec les habitants. Je pense qu'ils sont intéressants à voir.
Oui, 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 tout à fait. Oui, oui.
Donc vous parlez bien le français, vous l'avez appris où?
Ici, en travaillant, oui.
Il y a une école particulière?
À Paris, il y a une école particulière. Mais moi, surtout en apprenant les doigts français, j'ai appris beaucoup de langues françaises.
J'imagine que pour le droit, c'est presque une langue particulière.
Oui, exactement. Mais donc, au niveau de droit, donc, même si la langue, langue française et japonaise est différente, mais le langue droit, c'est plus ou moins similaire. Donc ça m'aide à comprendre la langue française à travers le mot juridique.
Oui, alors c'est vrai que la France a inventé beaucoup de lois du temps de Napoléon, le code Napoléon, enfin
ouais,
vous voyez, hein.
Ouais, oui.
Donc, quelque part, on a créé quelque chose, un outil.
Oui, oui, c'est ça, qui passe dans tout le monde, je pense. du monde entier. Ouais.
Donc à ce moment-là, on est peut-être devenu un peu universel.
Oui, oui, exactement, c'est ça. Oui.
Est-ce que vous avez ressenti une influence du droit français sur le droit japonais ?
Oui, 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 bien sûr. Surtout code civil, bah, code Napoléon. Et on a beaucoup influencé sur la loi japonaise.
Alors actuellement, bien sûr, bon, dans le monde économique, il y a le droit européen qui devient important, plus que peut-être le droit français. Est-ce que vous ressentez une différence, des possibilités pour la France d'agir un petit peu différemment, ou il y a des contraintes aussi qui nous lient complètement au droit européen? On peut encore avoir des marges de manœuvre.
C'est vrai que pas pour moi, c'est une idée totalement nouveau, originale. C'est-à-dire que vous êtes, bah, la France est un État indépendant, mais aussi il y a une Union européenne qui intervient au niveau de la législative. Et ça, c'est quelque chose que je dois comprendre. Mais...
Avoir des normes communes, c'est difficile de s'adapter aux normes européennes pour vous, japonais, entreprise?
Ça dépend de, je pense que ça dépend de l'industrie et le culture dans l'entreprise. Oui.
Alors, je ne sais pas, hein, dans les entreprises japonaises, comment les gens qui travaillent, les employés, les salariés, se sentent. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les entreprises d'avoir des collaborateurs qui se sentent bien dans l'entreprise?
Oui, 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 oui. Je pense que c'est très important.
Et comment se fait justement cette relation, comment elle se construit dans la confiance? Est-ce que c'est compliqué à établir parce que bon, a priori, il y a un patron, c'est lui qui dirige, et le salarié, il est payé pour faire une fonction, une action, etc. Est-ce qu'il peut se sentir valorisé dans une entreprise qui lui donne le goût de bien-être dans son travail?
Je pense, mais comme je suis à l'extérieur de l'entreprise, je vois beaucoup d'entreprises, mais je ne rentre jamais dans l'entreprise. Je sais, bah, honnêtement, je ne sais pas comment ça marche.
Donc pour vous, les négociations syndicales, ouais, ça fait partie d'une certaine manière de l'élaboration du droit dans les entreprises?
Oui, oui, bah, comme je ne fais pas droit social, parce que droit social, c'est vraiment particulier. Et surtout, le droit social en France, c'est encore particulier. Donc oui, je pense que le pouvoir de syndicat ici, c'est incroyable pour élaborer, bah, jusqu'à élaborer la réglementation par eux-mêmes.
Voilà, donc l'histoire n'est pas finie, le monde évolue, il faut s'adapter autant pour les entreprises que pour les citoyens, et donc pour faire bâtir un monde meilleur.
Exactement, oui. Merci.